Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, quiconque est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mes frères, c'est aujourd'hui le premier dimanche après Pâques, c'est-à-dire le dimanche in albis. Dans l'Église primitive, vous le savez, les baptisés qui avaient été baptisés à Pâques gardaient un vêtement blanc pendant toute l'octave de Pâques, de telle sorte que le dimanche in albis était le dimanche où à partir duquel ils pouvaient porter d'autres vêtements, mais c'était aussi un dimanche dans lequel leur était donné une série d'autres enseignements qui nous sont aussi adressés à nous qui n'avons pas été baptisés il y a 8 jours, mais un peu plus longtemps, et pourtant nous sommes aussi à l'école de l'Église. Donc avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons à voir plusieurs choses aujourd'hui. Nous nous attacherons spécialement au début de l'épître de Saint Jean que vous venez d'entendre. Dans un premier point, nous nous poserons la question de savoir ce que signifie le monde dont notre foi triomphe. Dans un deuxième point, nous verrons comment notre foi est la victoire sur le monde. Et dans un troisième point, assez bref, nous dirons quelques mots à propos de l'orthodoxie en matière de foi et de ses applications pratiques contre l'ingratitude. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Écoutez ce que dit Saint Jean. Mes bien-aimés, quiconque est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire quiconque est baptisé, a été baptisé, triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce passage est à la fois facile à comprendre, puisque tous les mots nous sont connus, mais il est difficile à comprendre dans son sens, puisqu'il semble parler d'une façon très ramassée et d'une façon un peu elliptique aussi. Mais avant de comprendre comment notre foi est le triomphe que nous avons sur le monde, il se trouve que nous devons nécessairement définir l'ennemi dont il est question ici. Nous savons que la victoire, c'est la foi, et nous savons que ce sur quoi triomphe notre foi, c'est le monde. Qu'est-ce que le monde ? Le monde est un mot qui est volontairement ambigu dans l'Écriture sainte. Il signifie plusieurs choses. Nous en donnerons trois. Trois de ces sens, il y en a quelques autres encore, mais ils ne nous intéressent pas aujourd'hui. Le premier, c'est la création de Dieu, d'une façon très large. Et ce n'est pas le sens le plus usité dans l'Écriture sainte. Le monde, c'est la création de Dieu. Maintenant, dans un deuxième sens, c'est l'humanité déchue. C'est pour cela qu'il est dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, etc. Donc, le monde, c'est l'humanité déchue. Donc, on voit que c'est déjà la création de Dieu, mais prise dans son sens le pire, c'est-à-dire dans le sens de déchéance. Un autre sens du monde dans l'Écriture sainte, c'est l'empire de la concupiscence et tous ceux qui sont sous l'empire de la concupiscence. C'est-à-dire que le monde, c'est le genre humain déchu, et donc par conséquent l'univers déchu, mais c'est aussi d'une façon plus subtile, non seulement la déchéance, mais la cause de la déchéance, c'est-à-dire la concupiscence, qu'elle soit chez les mécréants, chez les gentils ou chez les chrétiens. D'une façon générale, le monde, retenez ceci mes très chers frères, le monde, dans le langage de l'Écriture sainte, qui est notre langage, le langage de l'Église, d'une façon générale, le monde, c'est ce qui s'oppose à Dieu considéré en tant que fin et en tant que moyen de cette fin. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que tout ce qui est désigné par monde, c'est ce qui s'oppose au salut, c'est-à-dire la gloire, c'est-à-dire Dieu possédé, Dieu en tant que fin, le salut, et au moyen du salut, c'est-à-dire la grâce. Nous recevons la grâce ici-bas, afin de pouvoir recevoir la gloire dans l'au-delà. Donc voyez-vous, mes très chers frères, c'est une chose très importante de comprendre contre qui nous nous battons, afin de pouvoir triompher sur lui. Le monde, nous disent les commentateurs de ce texte d'aujourd'hui, le monde nous combat avec deux mains. La première main, qui est la main droite, c'est un ancien auteur que je cite, la première main, qui est la main droite avec laquelle le monde se bat contre nous, qu'est-ce que c'est ? C'est la prospérité. C'est la joie qui fait oublier Dieu. Ce sont les délices sensibles, de quelque nature qu'ils soient. C'est tout ce qui comble l'âme, c'est tout ce qui comble l'âme et qui semble combler l'âme et qui n'est pas Dieu. Ce sont les passions, les intérêts, les ambitions, tout ce qui fait que l'homme, s'attachant à ces choses-là et les poursuivant, en vient à oublier Dieu. C'est le cette main droite avec lequel du monde avec laquelle il nous combat. Ce sont aussi les divertissements, les distractions, choses qui nous détournent de Dieu, et que ce soit des petites distractions que nous ressentons dans la prière, ou que ce soit les distractions institutionnelles, si l'on peut dire, qui sont faites pour passer le temps, pour perdre le temps, pour, etc. Tout ce qui peut nous distraire du but, tout ce qui peut nous distraire de la course, tout ce qui peut nous divertir de Dieu. Cette main droite du monde, c'est encore tout ce qui nous soulage du poids de notre devoir vis-à-vis de Dieu et de notre prochain. Cette main droite du monde, ce sont les bonnes excuses, les bons prétextes que nous avons pour ne pas aimer notre prochain, pour lui être hostile, d'une manière ou d'une autre, et c'est aussi pour nous dispenser des devoirs que nous devons vis-à-vis de Dieu. Ils sont divers et variés, je pense que vous les avez à l'esprit, ce n'est pas la peine d'approfondir. Cette main droite du monde, par laquelle il nous combat, c'est aussi notre propre volonté propre. C'est-à-dire que le monde est tellement peu quelque chose d'extérieur à nous, que l'on peut dire d'une certaine manière que le monde que nous combattons comme étant quelque chose qui vient à nous est en réalité le reflet de ce qui est en nous. C'est pour ça, nous l'avons déjà évoqué il n'y a pas si longtemps, c'est pour ça que l'Écriture sainte est comparée à un miroir qui nous fait nous voir tels que nous sommes. Et bien sûr, elle ne nous fait pas voir beau, magnifique, plaisant à Dieu par nature. Elle nous fait voir déchu, elle nous fait voir sous l'emprise de la concupiscence tant que la charité ne prévaut pas. Elle nous fait voir hideux, elle nous fait voir déformés, elle nous fait voir amoureux de nous-mêmes d'une façon désordonnée. Voyez-vous, mes très chers frères, le monde existe bien sûr sous un certain rapport extérieurement à nous, bien sûr, c'est pour ça qu'on parle du monde, mais en même temps, la racine du monde, c'est notre concupiscence, c'est notre volonté propre. Voyez-vous, qu'est-ce qui frappe, si j'ose dire, sans jeu de mots, qu'est-ce qui frappe dans cette main droite qu'utilise le monde pour nous combattre? C'est qu'il n'y a que des choses qui vont dans notre sens. Le monde nous combat par sa première main, la main droite, il nous combat en nous poussant à faire ce que nous voulons. Vous savez, j'ai entendu l'autre jour, quelqu'un me disait qu'il y a on entend tout le temps aujourd'hui dans les discours, des discours qui se veulent, des discours pour améliorer les gens, etc., de toutes sortes, et spécialement ceux qui sont néo-catholiques, eh bien, on entend des gens qui disent « restez ce que vous êtes, surtout ne changez pas ». Enfin, on l'entend partout d'ailleurs, parce qu'on l'entend même dans le monde, bien entendu, surtout dans le monde. « Restez ce que vous êtes, ne changez pas ». Voilà un ordre qui est facilement suivi. Restez idiot, restez plein de vous-même, restez égoïste. Alors évidemment, ce n'est pas exactement à ça que pensent les braves gens qui nous disent restez, c'est-à-dire restez gentil, restez réceptif, restez plein de motivation, bien entendu. Mais d'une certaine manière, ils n'ont pas besoin de nous y inciter pour qu'on le fasse. Voyez-vous, mes très chers frères, s'il voulait combattre en nous la paresse ou le désespoir, il nous dirait d'une façon moins flatteuse, surtout ne vous relâchez pas et gardez le niveau que vous avez. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ce qui est déjà, c'est assez naturaliste, mais ce n'est déjà pas tout à fait la même chose. Gardez le niveau de peur que vous-même, vous ne deveniez paresseux, idiots et rebelles. Voyez ? Mais évidemment, ce n'est déjà plus très sympathique. La main droite avec laquelle le monde nous combat, nous flatte en réalité. Et en nous flattant, le monde se manifeste, notre pire tyran, notre pire maître, notre pire, dans le mauvais sens du terme, notre pire esclavagiste, c'est-à-dire que c'est celui qui nous astreint à ne suivre que notre volonté propre. Or, comme vous le savez, mes très chers frères, la fin de la volonté propre, c'est la damnation. Voilà comme la première façon dont le monde nous combat avec sa main droite, si vous voulez, symboliquement parlant. Maintenant, le monde a une main gauche aussi, nous disent les anciens auteurs, les auteurs. Cette main gauche, évidemment, est beaucoup plus désagréable. C'est l'adversité, les adversités, les malheurs, le malheur. Ce sont les épreuves que Dieu nous envoie, mais considérées en elles-mêmes, c'est-à-dire des choses désagréables, disons-le. La main gauche avec laquelle le monde nous combat, c'est encore la contradiction de notre amour propre. C'est notre paresse à faire le bien, notre retard dans l'accomplissement, c'est pas la paresse, ça serait plutôt la main droite. Ça, c'est notre la lassitude de faire le bien, que nous éprouvons. Le monde nous combat aussi par sa main gauche en nous rendant insupportables les retards dans l'accomplissement de notre volonté propre, qu'on appelle les frustrations. Voyez-vous, mes très chers frères, le génie du monde, c'est qu'il nous combat avec sa main droite et avec sa main gauche, et son génie, dis-je, c'est de nous faire combattre contre la main gauche pour la main droite. Et nous ne nous rendons pas compte qu'en combattant contre l'une, eh bien, nous renforçons notre asservissement à l'autre. Le monde nous fait faire la guerre de deux manières. Souvent, en opposant l'un à l'autre, la gauche à la droite, de sorte que, eh bien, nous cherchions à accomplir l'une contre l'autre et contre Dieu. Nous cherchons à retrouver un état de bonheur, un état de prospérité, contre en fuyant les épreuves, les choses que Dieu nous envoie, l'adversité, le malheur. Je parle pour des chrétiens, évidemment, les autres ne sont que des animaux, les gentils ne sont que des animaux asservis au serpent ancien, et ce n'est que en passant par la porte étroite du baptême qu'ils peuvent recouvrer en plein l'image de Dieu à laquelle ils ont été faits. Ils sont à l'image de Dieu, évidemment, ce sont des êtres humains, mais l'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu, ce n'est pas moi qui le dis, c'est saint Paul. Donc voyez-vous, mes très chers frères, le monde que nous combattons est un monde qui est une réalité qui est subtile, c'est une réalité de droite ou de gauche, au sens où nous l'avons dit, c'est une réalité contradictoire, mais c'est une réalité dont toutes ces contradictions, dont le point commun est qu'elle est opposée à Dieu. Le monde, c'est donc tout ce qui s'oppose à Dieu, intérieurement, extérieurement, d'une manière ou d'une autre. Alors comment notre foi est-elle la victoire sur le monde? C'est notre deuxième point. Saint Jean dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qu'est-ce que la foi? Nous avons défini notre adversaire, le monde, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à Dieu, tout ce qui s'oppose à Dieu, de quelque nature que ce soit. Qu'est-ce que la foi qui triomphe du monde? Demandons à saint Paul. La notion, la foi est une chose tellement importante que nous en avons la définition explicite dans l'Écriture sainte. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, saint Paul nous dit « La foi est la substance des choses qu'on espère, c'est-à-dire une conviction de celles qu'on ne voit pas. » Il y aurait bien des choses à dire sur cette définition de la foi, cette définition apostolique de la foi. Saint Chrysostome, nous expliquant saint Paul, nous dit « La foi est la vue de ce qui est caché. » Alors, ce n'est pas la double vue pour voir les trésors qui sont cachés dans les murs. La foi est la vue de ce qui est caché. Chaque mot est ici important. Tant que nous sommes ici-bas, nous marchons comme dans les ténèbres. Nous voyons les choses en énigme, comme dans un miroir. Nous ne les voyons pas directement. Mais, d'une certaine manière, nous les voyons déjà par la foi. Et ces choses-là, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu et toutes les vérités divines qui servent à notre salut. On n'a pas la foi pour croire que je ne sais pas moi, qu'il y a des insectes, que des microbes existent, alors on ne peut les voir que par le microscope, ou des choses de ce genre-là, des choses qui ne sont pas évidentes, mais qu'on croit. Ça, ce n'est pas la foi. À la rigueur, c'est une sorte de foi humaine, c'est une foi c'est une confiance dans la parole d'autrui, etc. Bon, la foi dont il est question ici ne concerne que les choses qui sont utiles à notre salut. Donc, que faut-il croire pour notre salut? que Dieu est un et trois, et que le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, est vrai Dieu et vrai homme. C'est le symbole de saint Athanase, et bien sûr, il y a encore beaucoup d'autres choses à croire, bien entendu, mais c'est l'essentiel, c'est les dogmes fondamentaux de notre foi. Or, nous n'avons pas vu notre Seigneur ressuscité. Nous n'avons fait que entendre le témoignage de nos pères, qui est consigné dans l'Écriture sainte, et de croire sur la foi de l'Église, qui nous a été donnée par le baptême. Donc, il se trouve, mes très chers frères, que nous croyons, et notre Seigneur dit à saint Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Bienheureux ceux auxquels Dieu donne la foi. » Dieu, par le don de la foi, ôte dans l'esprit de l'homme l'incertitude et le doute. C'est pour cela qu'il mente, et il se moque du monde, les gens qui vous diront, spécialement les néo-catholiques, qui vous disent le doute est l'aliment de la foi, sans le doute il n'y a pas de foi. Etc. La foi bannit le doute. La foi, c'est le contraire du doute. Alors vous allez dire, oui, mais combien de gens disent ils n'ont pas la foi? Nous y viendrons. La foi est un don de Dieu qui bannit l'incertitude, qui bannit le doute et qui bannit évidemment la mécréance. Ce n'est pas une conviction humaine, c'est une conviction surnaturelle. C'est-à-dire que nous le savons parce que Dieu nous le dit. Nous ne le savons pas, comme par exemple, quand vous parlez aux Mormons, ils vont vous dire, mais comment est-ce que vous savez, comment est-ce que vous savez que donc le livre de Mormons, leur troisième écriture, est véritablement... Alors ils vont vous dire, en mettant leur main sur leur poitrine, ils vont dire, mais je sens par la foi que c'est vrai. Et c'est une chose assez pitoyable de le voir, parce que je ne dis pas qu'ils ne sont pas convaincus, mais ce n'est pas la foi, c'est un sentiment. La foi, disais-je, bannit l'incertitude et le doute, mais la foi n'est pas forcément factrice de sentiments particulièrement vifs. Elle peut s'en accompagner, mais ce sont des dons, extraordinaires, qui ne sont pas forcément... La foi est avant tout un mouvement de notre volonté pour adhérer à tout ce que l'Église nous enseigne. Car Dieu ne pouvant ni se tromper ni nous tromper... L'Église, qui est l'organe de Dieu, ne peut pas se tromper dans son enseignement. C'est pour cela qu'il faut que toujours elle enseigne le dépôt apostolique. Sinon, eh bien, c'est un autre évangile et ce n'est plus l'Église. Et c'était autre chose. Maintenant, la foi, donc, n'est pas une conviction humaine, ce n'est pas un sentiment très vif de persuasion, c'est l'adhésion de notre volonté à tout ce que enseigne l'Église. Une fois que notre volonté est comme une main intérieure, dans la mesure où elle s'empare de ce que lui enseigne l'Église, elle le possède fermement. C'est pour cela que saint Paul dit « la foi est la substance des choses qu'on espère », c'est-à-dire nous espérons en Dieu, nous savons que Dieu nous donnera le salut, c'est-à-dire nous espérons en Dieu en tant que notre fin, et nous tenons déjà ce Dieu de façon réelle, quoi que ce soit d'une façon propre à l'état de voie, c'est-à-dire d'une façon imparfaite et non encore fixe et fixée. C'est une conviction surnaturelle. On ne peut pas s'inventer la foi, on peut avoir la foi superficiellement, en croyant, mais si on laisse le doute miner notre foi, alors nous quittons la foi. Tant de gens disent « j'ai perdu la foi ». Alors, il ne faut pas leur dire forcément de façon méchante, parce que bien la plupart du temps, c'est des malheureux qui ne savent pas ce qu'ils disent. Mais il se trouve que, pour montrer à quel point la perte de la foi est le résultat de la malice, on peut dire à ces personnes-là, est-ce que cela vous fait de la peine d'avoir perdu la foi? Alors, de temps en temps, c'est vrai, je l'ai déjà rencontré, il y a des gens qui disent « oui, je n'ai pas la foi, je l'ai perdue, je n'ai plus la foi, je l'ai perdue, et cela me rend malheureux ». Ce sont des choses qui existent, mais on le voit aussi dans les biographies des modernistes historiques, des savants modernistes historiques, dont certains étaient très révoltés, d'autres étaient tristes, en disant « voilà, la science que j'ai acquise a éteint la foi en moi, et cela me rend triste, parce que la foi est en même temps la foi de mon enfance, et je ne l'ai plus, donc je suis comme privé d'une partie de moi-même ». Alors, on verse une petite larme, on dit « ah, quel malheur », etc. Mais quand on regarde bien ces gens, finalement, ces gens-là, qui sont les pires, les savants modernistes. Mais quand on voit aussi les autres, monsieur tout le monde, qui dit « ah, j'ai perdu la foi, quand j'étais petit, je servais la messe, et puis maintenant j'ai perdu la foi », ces gens-là, quand on les connaît, quand on creuse un petit peu, quand Dieu les voit, si j'ose dire, quand nous les voyons, quand nous les connaissons un peu mieux, ces gens-là ne peuvent pas ne pas répondre par la négative à la question que nous leur posions, la question rhétorique, est-ce que cela vous afflige? Ils vont vous dire oui, peut-être, mais dans le fond, non. Pourquoi? Parce que la perte de la foi les rend libres pour eux-mêmes. La perte de la foi est un immense avantage dans la mesure où, se croyant dispensé de croire tout ce que l'Église enseigne, il se croit aussi dispensé d'obéir à Dieu. Or, ne pas obéir à Dieu est la chose qui plaît le plus à l'homme. Donc, perdre la foi est la chose la plus malicieuse qui puisse exister. C'est un acte de lâchage, si je veux dire, de dépossession volontaire de ce bien surnaturel, ce bien surnaturel que Dieu nous a donné au baptême, pour nous emparer d'autres choses futiles et accessoires qui sont l'objet de notre amour propre. Donc, voyez-vous, mes très chers frères, autant il faut avoir de la compassion pour les mécréants, pour les déchus, pour les apostats, etc., autant nous ne devons jamais oublier que si quelqu'un dit « j'ai perdu la foi », il dit, et en fait il crache au visage de Dieu, et il dit « je suis content de ne plus être sous la tutelle de Dieu ». Il n'y a aucune compassion à avoir pour les gens qui vous disent « j'ai perdu la foi », même si il faut leur manifester une compassion en vue éventuellement de leur pénitence et retour à la religion, bien entendu, c'est pour ça que vous comprenez bien ce que je dis. Mais ne pensons pas que la foi étant un don de Dieu, ceux qui n'ont pas la foi sont pitoyables, sont dignes de pitié, parce que Dieu leur a joué un mauvais tour. Ce n'est pas comme cela qu'il faut le voir, même s'il y a quelque chose de vrai dedans. Mais il ne faut pas le voir dans cela. La foi, quand on l'a reçue, est un don de Dieu, et quand on perd la foi, on perd ce don. Quelqu'un vous donne un lingot d'or, et par négligence, vous le perdez, vous n'êtes pas pitoyable, vous n'êtes pas digne de pitié, vous êtes un imbécile, vous êtes un insensé, vous êtes un fou. Alors vous allez dire, oui, mais il m'a échappé des mains. Comment ? Vous avez un lingot d'or dans la main et vous ne le cousez pas dans vos vêtements, si j'ose dire, vous n'entourez pas votre main de papier adhésif, de bande adhésive, pour éviter d'échapper. Je parle d'une façon évidemment caricaturale. Mais comment ? Vous avez un lingot d'or, par négligence, vous le perdez parce que il faut bien ramasser les feuilles, etc., qui sont par terre, et donc vous avez perdu, en faisant le ramassage des feuilles, vous avez perdu le lingot d'or, et vous allez croire que on va pleurer sur votre sort en disant « Oh, pauvre type, il a perdu son lingot d'or alors qu'il est en train de ramasser des feuilles. » Non, c'est un crétin. Je ne dis pas que ceux qui ont perdu la foi sont des crétins, mais tout juste. Voyez-vous, mes très chers frères. Alors aujourd'hui, c'est un sermon roboratif, car nous parlons non plus à des gens qui sont dans la voie pour aller vers le salut, nous parlons à des gens qui ont été baptisés, cela fait 8 jours qu'ils sont baptisés, il faut qu'ils prennent conscience qu'ils sont devenus des hommes dans le Christ, si j'ose dire, même s'ils sont encore des petits-enfants, ils sont devenus forts, ils ne sont plus ce qu'ils étaient, ils sont sur la voie du salut, alors qu'avant d'être baptisés, ils n'étaient pas sur la voie du salut, ils étaient dans le catéchuménat, donc ils étaient en voie, mais ils n'avaient pas encore franchi la porte. On ne perd pas la foi sans culpabilité de notre part. Et du coup, voyez-vous, mes très chers frères, nous ne sommes plus entourés de pauvres gens qui ont perdu le dépôt de la foi parce qu'elle s'est évanouie, etc. Nous sommes entourés d'insensés qui osent dire « il n'y a pas de Dieu » pour pouvoir quoi faire, mais pour pouvoir vivre à leur guise. Et ils sont d'autant plus idiots qu'ils ne vivent pas vraiment à leur guise, puisque même les lois des hommes les empêchent de vivre totalement à leur guise. À part ceux qui font n'importe quoi et qui sont... Mais la justice de Dieu les rattrapera, si ce n'est pas la justice des hommes, et ils seront traités comme ils le méritent, ceux qui violent toutes les lois divines et humaines. Donc voyez-vous, mes très chers frères, la foi est un don, ce n'est pas une conviction humaine, c'est un don de Dieu. Et son contenu, quel est-il ? C'est Saint Jean qui nous le dit. Et quel est celui qui triomphe du monde ? C'est-à-dire quiconque à la foi, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ce même Jésus-Christ qui est venu avec l'eau et avec le sang, etc., etc., dit Saint Jean. C'est celui qui croit que notre Seigneur est le Fils de Dieu. Cela signifie plusieurs choses que nous devons passer rapidement en revue. Nous croyons que notre Seigneur est le Fils de Dieu. S'il est Fils, il est Dieu. Si Dieu est donc un et trois, un seul Dieu, trois personnes distinctes, mais indivisibles et indissociables. C'est le symbole de saint Athanase, la triunité divine et la divino-humanité du Verbe éternel de Dieu. Le Christ n'est pas un homme adopté par Dieu, il n'est pas une créature dans laquelle Dieu s'est incarné, il n'est pas une apparence que Dieu a prise pour nous faire du bien, pour nous sauver, etc. Il est le Verbe éternel de Dieu, deuxième personne de la très sainte Trinité, qui a pris chair de la très sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu, et son humanité est l'humanité propre qu'il a prise de la très sainte Vierge Marie et qu'il a unie hypostatiquement, pour parler comme les théologiens, hypostatiquement, c'est-à-dire de façon indissociable, à sa divinité. C'est cela que nous croyons. Il faut croire de façon orthodoxe dans la divino-humanité du Christ et tout ce qu'elle implique. On ne peut pas être chrétien et ne pas croire ce qu'enseigne l'Église dans le credo et dans tout son enseignement, parce qu'elle l'a reçu des apôtres. Si nous ne croyons pas ce que nous enseigne l'Église, nous ne croyons pas ce qu'enseignent les apôtres. Or, les apôtres ont reçu de notre Seigneur la puissance de remettre les péchés et de retenir les péchés. Ils retiennent les péchés en particulier à ceux qui ne croient pas, et ils remettent les péchés à ceux qui croient, pour dire des choses d'une façon un peu ramassée. Donc, voilà la première chose qu'il faut savoir de notre foi au Fils de Dieu. Il faut que notre foi soit orthodoxe. Maintenant, une deuxième chose encore, c'est que croire en notre Seigneur, croire qu'il est le Fils de Dieu, c'est en même temps et indissociablement embrasser sa doctrine et lui obéir. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » À quoi sert-il de croire en la triunité divine et en la divino-humanité du Verbe si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, si nous n'écoutons pas la très sainte Vierge Marie et si nous ne faisons pas tout ce qu'il nous enseigne? On ne peut être chrétien et ne pas obéir à Dieu. Alors évidemment, on peut l'être canoniquement, on peut l'être légalement, bien sûr. Mais à quoi sert-il d'être un rameau qui est fixé sur la vigne, si ce rameau ne porte pas de fruits, si ce rameau est mort, si ce rameau ne reçoit pas la sève de la vraie vigne. Être chrétien, c'est recevoir sa grâce, la grâce de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, très précisément, et la recevoir d'une façon efficace. Sinon, on est un chrétien de nom, on est un membre mort du corps mystique du Christ. Je ne dis pas qu'on n'est pas chrétien, mais on ne l'est pas en vérité, on ne l'est pas d'une façon vive. Or, voyez-vous, mes très chers frères, la grâce du Christ opère en nous, dit saint Paul, le vouloir et le faire qui nous rend victorieux sur le monde. Croire en notre Seigneur Jésus-Christ, croire qu'il est le Fils de Dieu, c'est triompher du monde parce qu'on ne peut pas être dit croire véritablement si nous n'obéissons pas à celui dans lequel nous croyons. Car la foi que nous avons n'est pas simplement le fait de croire un certain nombre de vérités. Ces vérités, les vérités dont nous parlons, consistent en un Dieu dont le Fils est notre Sauveur. Je ne dis pas simplement que je crois qu'il y a une République française qui existe quelque part entre l'Espagne et la Belgique. Je ne dis pas que c'est pas ce genre de choses-là, que j'y crois ou pas. De toute façon, qu'est-ce que ça peut me faire que je crois que la Chine existe? Je n'y ai jamais été, je n'irai probablement jamais. Et qu'est-ce que ça peut me faire que j'y crois? Si je n'y crois pas, je suis un idiot, puisque les géographes me disent qu'elle existe. Mais en même temps, si j'y crois, ça ne me fait rien, ça ne change pas ma vie. Voyez-vous, mes très chers frères, si je crois que le Christ est le Fils de Dieu, alors ça change ma vie. Je ne peux pas être indifférent à ce que je crois. C'est pour cela que les gens s'empressent de perdre la foi quand ils comprennent que croire au Fils de Dieu, c'est nécessairement lui obéir. Et alors ils s'imaginent que parce qu'ils n'y croient plus, ils ne sont plus tenus de lui obéir. Voilà une erreur dramatique. Croire au Fils éternel de Dieu, c'est lui obéir. Lui obéir, c'est être victorieux du monde, c'est-à-dire de tout ce qui s'oppose à Dieu, comme nous l'avons défini dans notre premier point. Le Christ s'oppose au monde comme l'antidote au poison. Le Christ s'oppose au monde comme le remède à la maladie, comme la vérité à l'erreur, comme la vie à la mort. Nul ne peut servir deux maîtres, nous enseigne notre maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il méprisera l'un et honorera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, et saint Paul nous dira, vous pouvez servir Dieu et Bélial. Vous voyez, on ne peut pas se mettre sous le joug avec les infidèles, car ils servent un autre Dieu, ils servent le Dieu de ce monde, c'est-à-dire le diable, et nous, nous servons le Dieu vivant et vrai, qui nous a délivrés du diable, justement. Le chrétien mondain, mes très chers frères, le chrétien mondain, vous l'avez compris, le chrétien qui, sinon, a perdu la foi, du moins est en train de se débrouiller pour perdre la foi, le chrétien mondain est quatre choses que nous allons passer en revue brièvement. Il est... Qu'est-ce qu'est le chrétien mondain ? Le chrétien mondain est un traître, un désobéissant, un lâche et un ingrat. Un traître, tout d'abord. Le chrétien mondain est un traître. Car il vend son Seigneur pour un prix dérisoire au monde, c'est-à-dire à la concupiscence, qui veut le supprimer. Il agit de cette manière comme Judas. Alors on a beau dire Judas, c'est un méchant, Judas, ceci, cela, etc., tous ceux qui lui ressemblent, etc. Oui, c'est vrai, mais je fais exactement la même chose lorsque pour un gain misérable, je vends notre Seigneur. Et ce faisant, je me montre le plus sot du monde, le plus idiot du monde. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur n'est pas vendable. Notre Seigneur n'est pas en vente. Notre Seigneur est triomphateur du diable. Et quand bien même on croirait échanger notre Seigneur pour un bien temporel, c'est notre salut éternel que nous échangeons. Ce n'est pas notre Seigneur lui-même. Nous sommes traîtres, traîtres à notre roi, et si j'ose dire, traîtres à ce que le baptême a fait de nous, c'est-à-dire des fils de ce roi. Alors on va dire, oui, mon corps, mon âme m'appartient, j'en fais ce que je veux. Eh bien justement, non, ils appartiennent à Dieu. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit, votre âme est aussi le temple du Saint-Esprit dans lequel Dieu réside. Donc je suis un traître à mon roi, je suis un traître à moi-même qui ne m'appartient plus mais qui appartient à Dieu. Donc le chrétien mondain, le chrétien qui se laisse aller à la concupiscence, le chrétien qui se laisse aller, et je parle pour moi bien entendu, mes très chers frères en premier, le chrétien qui se laisse aller à tout ce qui l'oppose d'une manière ou d'une autre, que par la joie ou l'affliction à Dieu, est un traître. Mais ce n'est pas tout. Et alors vous comprenez qu'il est déjà, il mérite la peine éternelle juste à ce premier point. Mais ce n'est pas tout, il est encore trois autres choses. Il est désobéissant. Et là on rentre plus dans quelque chose qui parle aux enfants de Dieu. Si la notion de traîtrise nous semble impropre parce que nous aimons Dieu, alors si vous aimez Dieu, pourquoi suis-je désobéissant ? Si j'aime Dieu, pourquoi suis-je désobéissant ? Car si on aime le Christ, nous l'avons dit, on lui obéit. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Or, à quoi sert-il de dire que l'on aime Dieu si l'on n'aime pas son frère que l'on voit ? Si l'on ne renonce pas au monde qui nous tente pour aimer ce Dieu vivant et vrai qui nous a délivrés du culte des idoles. Le désobéissant mérite un châtiment, mes très chers frères, et s'il faut dire quelque chose d'encourageant, parce que nous sommes quand même tous un peu concernés à un moment ou à un autre par ce reproche d'être désobéissant, eh bien, il faut comprendre que l'enfant de Dieu qui est désobéissant mérite un châtiment, mais qu'il n'oublie jamais, nous dit l'Écriture, que c'est un châtiment de fils. Dieu nous châtie comme des fils. Dieu ne s'occupe pas de ceux qui ne sont pas ses fils. Donc malheur à ceux qui disent les bâtards, c'est-à-dire, oui, effectivement, ils ne sont pas les fils de Dieu. S'il y a une église, s'il y a des sacrements, etc., qui sont capables d'être désignés par ceux, ils ne sont pas catholiques. Voyez-vous, mes très chers frères. Alors, revenons aux fils légitimes. Les fils légitimes sont châtiés par leur père. Un père qui ne châtie pas ses fils ne les aime pas. Donc, mes très chers frères, lorsque nous confessons que nous sommes désobéissants, et ce sont des choses qui arrivent, n'oublions pas que nous sommes dignes du châtiment, mais châtiment de fils, et nous ne devons pas nous révolter contre le châtiment, parce que en nous châtiant, Dieu nous montre qu'il nous aime. Dieu nous montre que quelques traîtres et désobéissants que nous soyons, eh bien, il ne nous abandonne pas, et Dieu est infiniment bon, miséricordieux, il n'abandonne pas ses enfants, et si j'ose dire, pour être très exact, il ne les abandonne pas si facilement. Ce n'est pas tout. Lâche, traître, désobéissant, maintenant lâche. Souvent, on est traître par lâcheté. Mais Judas n'a pas été traître par lâcheté, il a été traître par envie, par avarice, nous disent les commentateurs. Donc, il est traître, le chrétien mondain, il est désobéissant, il est lâche. Pourquoi ? Eh bien, quand on y pense bien, c'est peut-être que nous trouverons ici quelques moyens d'être plus fort. Il est lâche, le chrétien mondain, parce qu'il cède aux menaces d'un ennemi moins puissant que son maître. Les chrétiens qui redoutent, le chrétien qui redoute la vengeance du monde montre qu'il ne connaît pas la puissance de son Dieu, ou qu'il ne veut pas la connaître. Le chrétien qui cède au respect humain, le chrétien qui accepte de se soumettre à la puissance du monde, est lâche, et cette lâcheté rejaillit en déshonneur sur son père. Imaginez un roi qui a un fils, un roi très puissant, qui a un fils, et son fils, dès qu'il croise dans la rue un cocher ou quelqu'un qui est là, qui fait de grands gestes avec son fouet parce qu'il a un fouet pour les chevaux, se met à trembler devant lui. Alors, il pourrait lui dire, mais non, ne sois pas intimidé par cet homme, c'est un homme qui est impressionnant, mais peut-il se comparer avec... Non, si le prince enlève sa couronne, enlève ses habits, se met à plat ventre devant ce cocher en lui disant, s'il vous plaît, ne me frappez pas, je ferai tout ce que vous voudrez, son père, avant de se mettre en colère, rougit de honte. Il dit, mais comment ? C'est mon fils, il me connaît, et il est lâche à ce point. Voyez-vous, mes très chers, si nous pouvions comprendre à quel point le chrétien mondain est un lâche, qui fait honte à Dieu, si Dieu pouvait avoir honte, mais sous un certain rapport, il est écrit « Vous me déshonorez ». Donc, il se trouve que, voyez-vous, mes très chers frères, il se trouve que le chrétien mondain est un lâche parce qu'il tremble devant des ennemis non seulement moins forts que Dieu, mais que Dieu a déjà vaincu au calvaire en écrasant la tête de cet ennemi. C'est un lâche. Le chrétien mondain est un lâche. C'est un lâche. Et il se trouve que, sous un certain rapport, si nous ne rougissons pas à cette évocation de la lâcheté du chrétien mondain, c'est parce que, d'une certaine manière, cela nous arrange bien d'avoir un Dieu impuissant. C'est-à-dire tolérant par paresse. Dieu n'en demande pas tant. Dieu n'en demande pas tant, Dieu comprend que dans les circonstances qui sont les miennes, donc Dieu n'a aucun moyen de rétorsion. Dieu n'est pas un homme, mes très chers frères. Dieu est patient, bienheureux, celui que Dieu châtie comme un fils, malheur aux lâches, auxquels Dieu ne dit rien, si j'ose dire, auxquels Dieu ne fait pas honte. Voyant son fils, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, voyant son fils à plat ventre devant ce cocher menaçant, le roi arrive, et qu'est-ce qu'il va faire ? Avant même de donner ses ordres pour que le cocher soit châtié, il va, si j'ose dire, donner un coup de pied au derrière de son fils en lui disant « Mais relève-toi, j'ai honte de toi !» Maintenant, s'il ne le fait pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il le renie pour son fils. « Bienheureux ceux que Dieu châtie, malheureux ceux auxquels... » Dieu ne s'intéresse plus. Et la quatrième caractéristique du chrétien mondain, c'est que c'est un ingrat. C'est une chose que nous connaissons bien, c'est un refrain, bien entendu, mais c'est très important parce que nous connaissons bien tout ce qu'il faut savoir sur l'ingratitude, et puis nous continuons à être ingrat. Donc, je parle pour moi en premier. Alors, le chrétien mondain est un ingrat. Après tout ce que le Christ a accompli sur la croix, il choisit de ne pas vivre de la vie même du Christ qui est l'auteur de la vie et qui est le chef, le dux de la vie, comme nous l'avons dit dimanche dernier. Il y a un aspect terrible dans l'ingratitude, voyez-vous, mes très chers frères, qui peut être en ce sens où l'ingratitude est quelque chose de honteux, terrible, sans nom, que nous faisons vis-à-vis de Dieu. Mais il y a quelque chose d'encore plus terrible, d'encore plus épouvantable, c'est que l'ingratitude peut être un signe de réprobation. Dieu n'aime pas tous les hommes en notre Seigneur. Cela se saurait, sinon tous les hommes seraient sauvés également. D'ailleurs, c'est ce que disent les néo-catholiques, nous y viendrons. Dieu aime tous ceux aiment d'un amour infini, souverain et puissant, tous ceux qu'il a donné à son Fils. C'est pour cela que lorsque notre Seigneur donne, enseigne, institue le saint sacrifice de la messe, il dit « Ceci est mon sang, ce calice est la coupe de mon sang, qui est versé pour beaucoup. » Beaucoup, c'est beaucoup. Dieu aime beaucoup d'hommes, de beaucoup de gens, bien entendu, d'hommes, vous comprenez. Maintenant, Dieu n'aime pas tous. Alors vous allez dire, mais c'est terrible, qu'est-ce que ça veut dire? Vous dites que Dieu n'aime pas, etc. Nous ne savons pas qui Dieu n'aime pas. Donc il faut dire, Dieu aime effectivement tous ceux qu'il aime. Ça, c'est une vérité. Maintenant, si vous dites à un ingrat, mais Dieu t'aime, ne le déçois pas, vous faites injure à Dieu. Sous un certain rapport, ce n'est pas totalement faux si cette parole était capable d'exciter le pécheur, le chrétien pécheur, à la pénitence. Et des fois, c'est vrai. Deo gratias. C'est pour ça qu'il ne faut pas ne pas la dire, spécialement aux enfants, dans lesquels il faut présupposer que, il y a sur lesquels il faut présupposer qu'il y a le décret d'élection, que Dieu les aime véritablement. Mais en réalité, si vous n'aimez pas Dieu, c'est peut-être aussi que Dieu ne vous aime pas. Alors vous allez dire, c'est terrible, ce ne sont pas des choses à dire. Effectivement, nous ne les disons pas tous les dimanches non plus. Mais nous disons ceci, on croit, parce que nous sommes modernes spécialement, que l'ingratitude, après tout, c'est mon droit vis-à-vis de Dieu. Non, l'ingratitude est, dans le meilleur des cas, un épouvantable péché, une épouvantable attitude d'un fils vis-à-vis de son père très aimant, dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, elle est le résultat du fait que Dieu ne nous aime pas. Dans son Fils. Alors, il nous aime en tant que créature, etc. Il va nous faire pleuvoir, il va faire tomber la pluie sur notre tête, etc. Bien entendu que Dieu nous aime sous un certain rapport. Mais il ne nous aime pas dans son Fils. Et ne nous aimant pas, il ne nous châtie pas comme des fils. Il nous laisse faire tout ce que nous voulons, qui n'est pas très différent de la tyrannie du démon, sauf que le démon le fait positivement et Dieu le fait négativement. Dieu nous abandonne à nous-mêmes. L'ingratitude, mon ingratitude, mes très chers frères, serait-elle un signe? Alors, nous y reviendrons, et c'est quelque chose que nous ne devons pas, sur laquelle nous ne devons pas trop, passer trop vite en disant « Mais non, 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 Dieu aime tous les hommes. » Sous un certain rapport, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, donc il aime les hommes, et comme dit la liturgie, il aime les hommes. La seule chose, est-ce que je fais partie des hommes que Dieu aime? Parce que si c'était le cas, est-ce que je me montrerais aussi ingrat que je le suis? Nous y reviendrons et nous mettrons un bémol à ceci pour bien faire comprendre et pas pousser les gens dans le désespoir, bien entendu. Mais voyez-vous, mes très chers frères, tremblons si nous sommes ingrats. Tremblons à l'idée d'être abandonnés à nos propres forces. Tremblons à l'idée que Dieu nous laisse finalement aller à la tyrannie de la concupiscence. Que Dieu nous abandonne à la puissance de notre libre arbitre qui est vivant pour le mal et mort pour le bien, si Dieu ne l'anime et ne le ressuscite. Par la grâce du Christ, ce Christ auquel nous croyons, et parce que nous croyons en lui, nous lui obéissons. Tremblons, mes très chers frères, que Dieu ne nous abandonne à la cruauté du diable. Je m'adresse aux chrétiens, aux nouveaux baptisés, qui sont en vêtements blancs, et que leur dis-je ? Je leur dis, ayez en horreur l'idée de retomber, de repasser sous la puissance du démon, votre ancien maître, dont le Christ vous a délivré en versant son sang pour vous et en vous faisant appliquer la puissance de ce sang par le baptême, l'eau du baptême. Tremblons, mes très chers frères, tremblons à l'idée que Dieu, pour punir notre ingratitude, nous abandonne, nous livre à Satan, selon l'expression terrifiante de l'Écriture sainte. Le diable nous attend de l'autre côté de la barrière. Il nous attend non pas pour nous faire des reproches, lorsque nous sommes du côté de la barrière du diable et que nous passons la barrière du côté de Dieu. Dieu nous fait des reproches. Il nous dit, mon enfant, que t'ai-je fait? Pourquoi me traites-tu de cette manière-là? Maintenant, tu es passé de l'autre côté de la barrière par ma grâce. Maintenant, tu vas faire pénitence. Mais il n'y a pas de pénitence Quand on repasse la barrière et qu'on va chez le diable nous accueille à bras ouverts, comme une sorte de parodie de père, du père du fils prodigue, et il ne nous donne qu'une seule pénitence, et il nous astreint à faire désormais tout ce que nous enseigne, nous suggère notre volonté propre. Quelle pénitence diabolique! C'est la pire chose, effectivement, qui puisse nous arriver, et c'est la chose qui nous plaît et qui nous ravit le plus, qui nous enchante le plus, mes très chers frères. Cette chose-là, craignons-la, ayons en horreur cette idée, l'idée de retomber sous la coupe, de repasser sous la coupe du diable, qui nous astreindra à ne faire que notre volonté propre, c'est-à-dire à nous damner avec lui. La foi, nous disent les commentateurs, évidemment, la foi doit être vive, c'est-à-dire vivante, c'est-à-dire présenter les œuvres qui attestent de son authenticité. Et c'est par cette foi-là, par cette foi vive, cette foi vivante, que nous triompherons du monde, c'est-à-dire de tout ce qui s'oppose à Dieu, d'une manière ou d'une autre, intérieurement ou extérieurement. Quel est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est notre troisième et dernier point, quelques considérations sur la nécessité de l'orthodoxie en matière de foi. La néo-église, nous n'en parlons pas souvent, mais on nous le reproche un peu. Alors, nous allons en parler là maintenant pour terminer. La néo-église, la fausse église catholique, la néo-église ne croit pas au Fils de Dieu. Alors vous allez dire, mais j'ai regardé le catéchisme, etc., ils y croient. Oui, vous inquiétez pas, ils y croient. Bien entendu qu'ils y croient. C'est pour cela qu'ils osent s'appeler catholiques. Mais en réalité, ils n'y croient pas. La néo-église ne croit pas au Fils de Dieu. Elle ne croit pas à la souveraineté et à la puissance du Christ. Pour elle, pour la néo-église, et ça fait déjà un moment, pour elle, le Christ n'est que le pourvoyeur d'un secours qui excite l'homme de bonne volonté au bien. Alors vous dites, mais ce n'est pas vrai, je pensais quand même la grâce de Dieu nous rend plus facile l'obéissance au commandement de Dieu, etc. Oui, ben réveillez-vous, mes très chers frères, vous êtes pélagien. Non. Le Christ n'est pas sauveur dans le sens où il vient en quelque sorte nous exciter à faire le bien. Le Christ est sauveur dans la mesure où nous sommes morts dans nos péchés, où nous ne faisons que le mal, et à défaut du bien qui n'est pas méritoire, donc une autre forme de mal, et il vient nous délivrer de l'emprise, de l'empire du péché, du diable et du monde pour nous faire passer dans son admirable lumière, et afin que nous puissions vivre à la gloire de notre Père Céleste, qui nous a aimés en son Fils, in Christo. Pour la néo-église, donc, nous l'avons dit, il n'est que le pourvoyeur d'un secours qui excite l'homme de bonne volonté, comme elle dit, au bien. La néo-église ne croit pas à la volonté salvifique du Dieu libre, offensé et miséricordieux dans le Christ. Pour elle, tous les hommes sont sauvés. Elle enseigne même que les hommes sont sauvés même sans le savoir. Et c'est même pas les questions d'histoire d'ignorance invincible, déjà, qui sont déjà une horrible hérésie. Mais c'est que, d'une manière ou d'une autre, Dieu est tellement miséricordieux qu'il sauve tout le monde. Il faut vraiment... Que faut-il faire pour être damné ? Ben, il ne faut pas accepter les migrants, il faut d'autres choses qui n'est peut-être pas décent de dire, mais disons que, ou prudent de dire, mais disons que, c'est-à-dire que, moyennant que vous ne soyez pas un monstre absolu, selon certains critères, vous êtes sauvé. Alors, les plus raffinés vous diront, vous n'êtes pas sauvé par votre fausse religion, mais en dépit de votre fausse religion. Et nous disons, parce que nous sommes catholiques, si vous avez une fausse religion, vous êtes damné. À cause de cela, c'est pour cela qu'il faut se convertir, c'est pour cela qu'il faut sortir des griffes du démon, c'est pour cela qu'il faut abjurer la fausse religion. On n'est pas sauvé en dépit de la fausse religion, c'est se payer la tête du monde, à commencer de Dieu. Voyez-vous, mes très chers frères, l'Église, la néo-Église, écoutez-la. Elle ne parle pas d'un Christ souverain, d'un Dieu souverain, d'un Christ qui a les moyens de ses volontés, d'un Christ qui, lorsqu'il veut sauver, sauve. La néo-église, qu'est-ce qu'elle nous montre ? Elle nous montre un Christ avec des yeux de biche, qui, avec des petites lumières qui sortent de je ne sais pas trop où, de son cœur ou d'ailleurs, et qui dit, qui fait les yeux doux à l'humanité, et on en est tellement à dire que le Christ et n'est pas reçu, que je lisais l'autre jour dans un livre abominable émanant des milieux traditionnalistes sur la Sainte Vierge, on dit, mais alors le Christ ayant connu l'échec, non, c'est la Sainte Vierge qui est venue, et elle est venue parmi les siens n'ont pas reçu, parce qu'évidemment on n'écoute pas la salette, Fatima, machin, mal truc, Akita, Quito et autres bilvesés de ce genre-là, et de telle sorte que, alors même la Sainte Vierge est en échec. Mais alors, l'homme est vraiment tout puissant d'avoir un Dieu, par rapport à un Dieu si faible. Non, mes très chers frères, non. Notre Dieu ne regarde pas avec des yeux larmoyants de teckel plus ou moins battu le futur maître qu'il aimerait bien se donner et avec lequel il aimerait partager sa gamelle, ses nonos, etc. Non, notre Christ, notre Sauveur, et nous ne pourrions pas l'appeler notre Sauveur s'il n'était pas, a les moyens de sa volonté. C'est-à-dire, lorsqu'il veut sauver, il sauve. C'est pour cela que dans le Dies Irae, nous disons, vous qui sauvez gratuitement ceux que vous voulez sauver, ceux qui doivent salvando salvas gratis. Voilà, vous qui sauvez gratuitement ceux qui doivent être sauvés. Qui sont ceux qui doivent être sauvés? Ceux que Dieu a prédéterminés dès avant le commencement du monde. Voilà le Christ que nous enseigne l'Église catholique. Voilà le Christ que nous enseignent les apôtres, que nous enseigne Saint Paul, que nous enseignent les pères de l'Église, à commencer par notre Saint-Père Augustin, mais ce n'est pas le seul. Les pères avant lui, les pères après lui. Voyez-vous, mes très chers Saint-Bernard, Saint-Grégoire le Grand, Saint-Jérôme, et tous les autres, et puis évidemment tous les autres, sauf ceux qui ne sont pas catholiques, mais nous n'avons affaire qu'à des catholiques, évidemment, mes très chers frères. Donc voyez-vous, à force d'insister sur le fait, dans la néo-église, à force d'insister sur le fait que c'est librement qu'on se damne, ce qui est vrai, ce qui est tout à fait vrai, Dieu n'inspire à personne de pécher afin de pouvoir les damner. Ça, c'est vrai. Voilà. Maintenant, il se trouve que, à force d'insister presque univoquement sur le fait que c'est librement qu'on se damne, la néo-église en vient à enseigner que c'est tout aussi librement qu'on se sauve. Or, c'est faux. Nul ne voudrait se sauver si Dieu ne lui en inspirait efficacement le désir, la volonté. Il lui en inspire le désir, la volonté, il lui donne la foi par laquelle cette volonté adhère à tout ce que l'Église enseigne, comme elle adhère à un contenu qui n'est pas simplement doctrinal mais qui est vivant, puisque c'est le Dieu vivant et vrai qui est l'objet de notre foi, elle le connaît, elle croit en lui, elle l'aime, elle lui obéit, cette âme, et elle triomphe du monde. Parce que Dieu l'a aimé en premier. On croit que c'est par un mouvement qui vient de l'homme et que Dieu récompense, et sur lequel il surajoute toutes sortes de dons, qu'on est sauvé. C'est faux. C'est faux. Alors, vous allez dire, il y a bien quelques voix dans la néo-église qui sont légèrement plus orthodoxes et qui disent des choses qui ne sont pas aussi monstrueuses. En réalité, ce n'est pas si monstrueux que ça, hein, si vous y pensez bien. C'est assez banal. Mais en même temps, ces voix-là, bon, tant mieux pour elles, mais c'est comme chez les protestants, tant mieux pour eux, mais leur magistère les désavoue. Leur magistère les désavoue. Ce sont des docteurs particuliers, si j'ose dire. Alors, ils se réfèrent à l'ancienne Église, mais attention, le magistère vivant, c'est l'Église d'aujourd'hui qui importe. L'Église d'hier, il ne faut pas l'opposer à l'Église d'aujourd'hui, parce que de toute façon, l'Église d'aujourd'hui achève, ringardise, si vous voulez, l'Église d'hier. Hein, ça, c'est tout don Guéranger, en réalité, dans son introduction aux œuvres de saint Alphonse de Liguori. Donc, voyez-vous, mes très chers frères, terminons. La néo-Église ne croit pas au Christ auquel nous croyons. Elle ne croit pas au Christ dans lequel nous nous confions pour être sauvés, au Christ qui nous a sauvés, au Christ dans lequel le Père éternel nous a aimés de toute éternité. Elle n'y croit pas, la néo-église n'est pas l'Église catholique, les membres de la néo-église, qu'ils soient de la hiérarchie ecclésiastique ou des laïcs, ne sont pas catholiques, ils doivent se convertir, ils doivent abjurer la fausse religion néo-catholique, et ils doivent être agrégés à l'Église catholique. Si ça n'a pas été fait, canoniquement, légalement, ils sont toujours, ces gens-là qui s'imaginent, ils sont toujours dans la néo-Église, et ce sont des catholiques imaginaires. Vous le savez, mes très chers frères, vous qui êtes catholiques. Alors, contre l'ingratitude, qu'est-ce qu'il faut? Je disais que nous mettrions un petit bémol à ce que nous avons dit à propos de l'amour limité de Dieu. Évidemment, Dieu, on peut dire qu'il aime tous les hommes dans le sens où nous ne savons pas qui il aime, qui il n'aime pas. Nous savons aussi que Dieu aime toutes sortes d'hommes. Dieu veut que toutes sortes d'hommes soient sauvés, explique notre Saint-Père Augustin lors de ses paroles. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que toutes sortes d'hommes soient sauvés, pas simplement les juifs, aussi les gentils. Donc, contre l'ingratitude, il faut non seulement méditer l'œuvre rédemptrice du Christ au calvaire en ayant du Christ la foi orthodoxe, mais il faut aussi méditer sur le mystère insondable et vertigineux de l'élection, pas constamment, mais de temps en temps. Il faut le méditer, il faut se persuader que nous en sommes indignes, car rien en nous n'est capable d'exciter l'amour de Dieu ou de provoquer l'amour de Dieu, et a fortiori son désir de salut pour nous, voyez-vous. Et ensuite, et en même temps, il faut croire à Dieu, il faut croire au Christ, il faut aimer Dieu, il faut aimer Dieu comme un noyé crie à celui qu'il voit sur la rive. Il faut aimer Dieu comme quelqu'un qui sait que sans l'amour de Dieu, qui se vérifie par l'amour du prochain, il ne peut pas être sauvé. Voyez, vous, mes très chers frères, rassemblons tous ces aspects dans un faisceau, ne délions pas la gerbe, évidemment, ça serait dangereux, évidemment. Mais enfin, il faut dire les choses aussi. Ce n'est pas parce que des produits sont dangereux qu'il ne faut pas les avoir chez soi. Il faut simplement bien les manipuler. Maintenant, mes très chers frères, méditons donc sur l'amour de Dieu pour nous manifesté dans le Christ au calvaire. Méditons sur le fait que cet amour de Dieu manifesté dans le Christ au calvaire s'applique efficacement à ceux que Dieu aime. Méditons le fait que nous ne sommes pas aimables et demandons à Dieu de nous sauver. Sauvez-nous, Seigneur, sauvez-nous pour l'amour de votre Fils. Sauvez-nous, nous qui sommes indignes que vous vous occupiez de nous, que vous nous aimiez, que vous vous occupiez de nous. Nous qui nous aimons tellement, nous qui sommes traîtres en tant que chrétiens, nous qui sommes traîtres, nous qui sommes désobéissants, nous qui sommes lâches, nous qui sommes ingrats. Sauvez-nous, Dieu Sauveur, sauvez-nous pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, dans lequel nous croyons. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci.